Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue à Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Normand Labelle, qui gravite dans l'univers du 9e art québécois depuis plus de 50 ans et qui vient tout juste de publier sa première bande dessinée intitulée « Félix qui fixe ». Normand Labelle, salut!
Bonjour!
Merci beaucoup de me... Enfin, je te reçois mon micro, mais c'est toi qui me reçois dans ton antre. Pour le bénéfice des auditrices auditeurs, on a un chat, Rorschach, qui peut-être va s'inviter dans la conversation. Il est très, très social. Donc, si vous entendez des ronronnements, il ne s'agit ni de Normand,
non.
Ni de votre animateur.
Non.
Hein? On ne voudrait pas partir de nouvelles rumeurs dans...
Ni confondre les auditeurs.
Non, exactement. Alors, Normand... Je te reçois pour ton premier album de bande dessinée, que parce que bon, t'es quand même quelqu'un qui gravite dans l'univers de la bande dessinée québécoise depuis de nombreuses années. Écoute, au plus loin que j'ai pu remonter, j'ai vu une participation de ta part à l'époque où t'étais à Sherbrooke dans la feuille d'actualité de Beaver.
Ah oui.
Donc, une feuille d'actualité sur le milieu de la bande dessinée francophone, anglophone, nationale.
Oui, qui était
nationale.
Publiée par Clifford Litovsky.
Litovsky, voilà, exactement. Donc, où tu recensais certaines activités de ton coin. Donc, on parle de 1973, si ma mémoire me sert.
Oui, dans ces eaux-là, oui.
Et donc là, on fait un méchant bond dans le temps. Puisque tu nous as offert dernièrement ton premier album de bande dessinée qui s'intitule Félix qui fixe. Donc, des bandes que tu as commencé à publier en ligne sur Facebook à l'époque de la pandémie.
À peu près, ouais, au début. Ça a duré quoi, 2 ans et demi peut-être. C'était une planche par semaine, parfois deux. Et ça me forçait à pondre. Hein? Ouais. Les éditorialistes, les cartoonistes ont tous cette pression-là du deadline et ça force les jus créatifs à circuler là, dans ça.
Ben justement, dans Félix qui fixe, on sent tout de suite l'œil du chef de pupitre, on sent l'œil de l'homme qui a évolué dans la sphère médiatique parce que t'as ton regard précis, incisif, concis. Il y a un sens de la synthèse, ajouté à ça un degré, une strate humoristique, ou en tout cas de connivence avec le lecteur. Donc vraiment, on sent toutes ces années. Parce que dans le fond, moi, la question que j'ai envie de te poser, je la connais un peu, mais les auditrices et les auditeurs, je suis convaincu qu'ils la connaissent pas forcément. Tout d'abord, pourquoi avoir mis 50 ans à livrer ton premier album? Ce qui fait de toi d'ailleurs un jeune auteur de bande dessinée.
Un jeune auteur. Ouais, un membre de la relève.
Oui. Mais,
bon.
À la retraite.
À la retraite, en plus, depuis 4 ans. Moi, j'ai fait, quand j'étais à Sherbrooke, je suis Montréalais de naissance, mais j'ai habité à Thetford Mines, jeune, quand j'étais mineur, évidemment. Et puis ensuite, vers 8 ans, à Sherbrooke, et je me suis impliqué assez rapidement dans le théâtre. J'ai fondé ma troupe, j'ai écrit des pièces, je les ai montées, et je considère ça aujourd'hui, avec le recul, comme des péchés de jeunesse. Je ne renie rien, mais on sent la maladresse d'un jeune homme à peine dans la vingtaine qui tente des choses, et c'est correct, il faut grandir. Alors j'attendais pour ma première bande dessinée, qu'une certaine maturité arrive.
Mais 50 ans, c'est quand même attendu longtemps la maturité.
Oui, ben je m'est venu. Fait que j'ai dit tant pis, j'ai presque 70 ans, c'est maintenant ou jamais, surtout si je vais en sortir d'autres après. Alors voilà, je me suis convaincu de faire Félix, que j'avais débuté il y a 13 ans quand même, sous le nom, son nom anglais, Staren Steven, et j'en avais fait 5 ou 6. Et je me suis dit à l'époque, s'il peut devenir assez populaire, Staren Steven, que pendant les élections fédérales, Stephen Harper, qui était premier ministre à l'époque et qui allait perdre, ça c'était évident, aux mains de Justin Trudeau, ben, je voyais un autre caricaturiste prendre Stephen Harper sur un divan, les yeux écarquillés, qui regardait les résultats de l'élection comme une parodie de Steren Stevens. Mais bon, il n'est pas devenu populaire à ce moment-là, puis il ne l'est toujours pas. Mais j'ai pris mon temps. Puis quand j'ai pensé au nom en français, Félix Kifix, ça m'a comme allumé. Puis ça m'a donné l'élan pour reprendre ça.
Oui, parce qu'en fait, dans le titre, tout est déjà là.
Oui.
Parce que, bon, c'est des courtes bandes qu'on pourrait dire expérimentales, et je m'explique. C'est-à-dire que tu t'es donné comme contrainte formelle de faire en sorte que ton Félix conserve toujours la même position, à demi assis, à demi évaché dans un sofa,
ouais,
une place. Et c'est comment, sous la structure d'un gaufrier de 9 illustrations, c'est comment tu arrives à construire,
ouais,
je dirais, un monde intérieur.
C'était des contraintes contraignantes, pour être redondant, et surtout qu'il est complètement impassible. Et il n'y a aucune expression dans son visage.
Impassible de l'extérieur.
De l'extérieur, mais parce ça bouillonne que... là-dedans.
Oui, oui.
Là. Et les dialogues au-dessus de la tête sont en fait, c'est passé, il ne parle pas, là. Il n'ouvre jamais la bouche. Et on voit, parce que c'est une sorte de gribouillis en lettres carrées, faites à la main, que quelquefois ça se bouscule un petit peu plus que d'habitude. C'est la seule chose qui bouge dans la page, sauf exception, là, c'est ses pensées. À part ça, ben, des fois, il va avoir des personnages imaginaires, à un moment donné, il se prend un chat, mais normalement, il est assis dans son fauteuil, c'est 9 cases, ça bouge pas. Et ce que je veux absolument dire pour les gens qui vont lire, c'est que les silences sont très importants. Moi, ouais, je propose au début du livre d'attendre 2 secondes lorsque mon petit bonhomme ne réfléchit pas. Parce que s'il y a une pensée à la case 1, à la case 3, pas à la case 9, les gens, par réflexe, vont aller lire 1, 3, 9, mais ils vont passer autre aux autres.
Ouais.
Mais il faut passer dessus, il faut attendre. Il faut y laisser le temps de réfléchir. Et ça impose un rythme de lecture qui va bien avec la BD en tant que telle.
Oui, c'est qu'il y a un côté enseignement là-dedans, parce que tu touches un point, c'est que moi, je considère qu'il y a encore beaucoup de gens qui, même s'ils lisent la bande dessinée, n'ont pas encore tout à fait assimilé les codes, ouais, qui permettent vraiment de bien la lire. Puis là, je cite souvent en exemple « S'enfuir » de Guy Delisle aux éditions d'Argo. Alors, c'est le journal c'est le journal de bord d'un journaliste fait prisonnier.
Oui.
Et donc, Guy Delisle, qui vient de l'image, qui vient du cinéma d'animation, c'est un livre extraordinaire parce que dans le fond, on est dans l'intériorité de son personnage aussi. Et il joue, lui, à la différence de toi, il joue beaucoup avec les cadrages.
Mm-hmm.
Et il y a des gens qui, lorsqu'ils lisent une bande dessinée, ne lisent que ce qu'il y a dans les phylactères ou... Et donc, évidemment, S'enfuir, il y a des pages et des pages où il n'y a pas de texte.
Le silence, c'est ça.
Et donc, moi, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai lu ça en 15 minutes, ça m'a coûté 39,95 $. » Je fais « Ben non, c'est parce que t'as pas lu S'enfuir. T'as tourné les pages de S'enfuir.
Voilà. »
Et donc, toute cette notion de rythme-là dans Félix qui fixe, pour moi, tu ne renies pas tes péchés de jeunesse du théâtre.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parce qu'il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre-là dans le jeu du rythme.
Oui, absolument. Et même, puisqu'il est publié en tête bêche, en anglais également, parfois dans certaines pages en anglais, à cause du rythme de la langue qui n'est pas la même, j'ai déplacé ces moments de pensée pour avoir peut-être 2 secondes de plus. C'est une question de rythmer toute la page, si on veut. Et je me suis aperçu, je l'ai gardé à ma place, non, quelque chose ne va pas. Alors, ben oui, tu as absolument raison.
Donc et là, peut-être que les plus vieux à l'écoute vont comprendre la référence, mais c'est un double défi, hein, comme la fameuse émission de télévision,
ouais,
tu te souviens,
ouais,
à Télémétropole. Mais il y a un défi double parce que c'est 2 langues qui fonctionnent différemment, on le sait. Le français, généralement, c'est... Dans c'est sa plus, structure, c'est plus complexe.
C'est plus verbeux.
C'est plus verbeux.
C'est ça.
Alors qu'en anglais, on va directement...
Oui.
Bon, évidemment, dans l'anglais usuel, là, on ne parlera pas de Shakespeare. Et,
Non, mais l'anglais de tous les jours, là, ouais, c'est ça. Oui, c'est différent, c'est différent. Mais c'est intéressant de voir le personnage sous ces 2 angles-là.
Alors, ce personnage-là, quand tu débutes la diffusion de tes premières bandes sur Facebook durant la pandémie. À ce moment-là, t'étais-tu donné un défi au niveau du rythme de production? T'étais-tu
oui. dit... Oui, OK. C'est une page par semaine. Par semaine, parfois okay. deux. Parfois deux.
OK. Ben. Et est-ce que la participation de lectrices, de lecteurs en ligne ont d'une quelconque manière altéré, influencé, transformé,
modifié? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pratiquement tout le monde me disait « Arrête, c'est de la merde. » Donc, j'ai continué. Non, c'est pas vrai. C'est, oui, le feedback était très bon.
Ouais.
À un moment donné, je les ai fait voter sur une copine imaginaire pour Félix en avait trop dans sa vie, il y en avait 8-9.
Alors,
on le voit dans le livre. Ouais. Alors, laquelle préférez-vous? Vous ne les connaissez pas, c'est juste le visuel, là. La gestuelle un peu des fois, parce que celle qui dansait, c'est elle qui est arrivée numéro 1. Et fait qu'il y avait une sorte de participation comme ça. J'ai même demandé à un moment donné à ce qu'ils m'écrivent des scénarios, si vous pouvez. Il y en a qui ont essayé, et puis ils me disaient, non, je suis pas capable. C'est pas si évident que ça.
Ah non, hein?
Non.
Ah ben non, c'est non. sûr que c'est pas évident.
Non. Ils ont trouvé que le défi était pas mal plus grand qu'ils pensaient.
C'est sûr que moi, bon, je me souviens d'en avoir lu en ligne à l'époque, là, où j'étais encore présent personnellement sur Facebook, ce qui n'est plus le cas, et je ne m'en porte que mieux.
Ben voilà.
Mais... Je me souviens à l'époque, quand j'ai vu tes bandes, je me suis dit, OK, donc lui, il est dans Loubapo, hein, l'ouvroir de la bande dessinée potentielle.
C'est ça.
Qui
ça,
t'en...
plein de se mettre le plus de contraintes possibles.
Oui, de contraintes formelles possibles. Et, ben, évidemment, quand j'ai lu tes bandes, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Donc, en quelque part, ça peut répondre à ce que Francis Desharnais a fait avec La Guerre des Arts, ce qu'il a fait avec Alexandre Fontaine-Rousseau pour Les Premiers Aviateurs, exact. Pour La Conquête du Cosmos.
Oui.
Et il y a tout un. En fait, il y a une espèce de mouvement qui a été surtout parti en Europe, mais qui est ouvert à tous. Là,
oui.
Notamment, l'association a publié des albums avec cette espèce de creste, si on veut, de Loubapo.
Il y avait aussi un Ontarien dont le nom m'échappe, qui ne pouvait pas dessiner de son propre aveu, mais il a fait quand même plusieurs comic books. Avec seulement des dollars et des pièces d'argent. Ça s'appelait Money Talks. Et il y avait la reine d'Angleterre, il y avait Benjamin Franklin, il y avait George Washington. Il y avait...
Il a quand même
réussi à faire plusieurs fascicules
comme ça.
Fait qu'avec la reine parlait, puis Franklin répondait. Puis bon, il y avait des échanges un peu absurdes. Des fois, hein.
Ouais.
Mais comme un peu Félix
là,
qui
Félix fait qu'on est vraiment dans le dessin. Là.
On peut tomber dans l'absurde parce qu'à un moment donné, il fait un flip avec son fauteuil.
Ouais.
Puis il dit, c'est plus difficile que ça en a l'air. Mais...
Et c'est drôle parce que l'effet de le lire en album versus à l'écran, c'est que lorsqu'on entre dans l'hypnose de lecture, tout à coup, quand il y a le moindre mouvement dans ton album,
on fait vraiment
le saut et c'est d'une violence. D'ailleurs, c'est drôle parce que en lisant l'album, ça m'a rappelé les premiers albums de Louis Trondheim. Le titre est loin, je me souviens pas, mais c'est un personnage couché, là, donc la tête posée sur son oreiller. Et c'est ça, tu sais, Trondheim apprenait à dessiner à l'époque, donc il s'était déjà affublé d'une contrainte formelle semblable à la tienne. Et là, derrière, je... c'est terrible. Je pense que tu vois dans l'avenir où tu lis les feuilles de thé ou de gyps, peut-être, parce que Normand, ton personnage, dans une page, on le voit côte à côte avec une photo de Justin Trudeau.
Oui.
Et dans le fond, Justin Trudeau, au moment où on se parle, se retrouve exactement dans la même position qu'Harper à l'époque où tu as eu l'idée.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce qu'il y aura une suite à Félix qui fixe et ce sera un Trudeau?
Ça va s'appeler Justin qui s'abstient. Mais, on parle de la coupe de cheveux
de
Justin, parce qu'après pendant la pandémie, il s'est laissé pousser les cheveux longs, la barbe. Puis à un moment donné, bon, il a été chez le coiffeur, mais quelle coupe, je veux dire. Tu sais, c'est bien beau, mais prends pas Stevie Wonder comme coiffeur, là. C'était une coupe épouvantable.
Ouais, ben d'ailleurs...
Ben, comme celle de Félix.
Ouais.
Mais
Une coupe qui me fait pas regretter maintenant d'être chauve, je te dirais. Oui, voilà, juste ici. Et donc là, tout à coup, bon, t'en publies en ligne l'idée d'en faire un album papier, physique, charnel. Mm-hmm. Ça vient d'où? À quel moment?
Quand je me suis aperçu que j'en avais assez pour faire un livre. Et j'avais beaucoup de fans, d'amis de Félix qui me disaient « Hey, ça va-tu sortir en livre? Ça va-tu... Ah, » Ben, j'ai dit, moi, je vise plutôt un film avec Tom Hanks dans le rôle de Félix et Johnny Depp dans le rôle du fauteuil. c'est son genre de rôle. Mais
il serait bon, par exemple, Johnny Depp dans le
rôle. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Non, je vise des petits dessins animés de 15 secondes. Et je pense que, pensez-y, là, ça coûterait vraiment pas cher à animer.
On en
cherche de ça pour remplir des petits trous
entre deux émissions. Oui, des capsules. Ben, en fait
j'ai un projet que je vais présenter bientôt. Là.
Est-ce que tu as déjà vu le film La Jetée de Chris Marker?
Oui, mais c'est...
Mais c'est l'idée que c'est des plans fixes qui bougent pas.
C'est des plans fixes, c'est ça.
Il n'y a qu'un seul plan qui fixe. Ouais. Et c'est un plan extraordinaire. Mm. Est-ce que je le dis? Non, je ne le dirai pas. Je ne veux pas dévoiler le punch.
Pour les gens qui ont pas vu le film.
Et pour celles et ceux qui ont vu... L'adaptation américaine 12 Monkeys, vous avez pas vu la jetée
non,
de Chris Marker.
Ça
n'a rien à voir.
Rien à voir. Mais c'est une technique qui arrive souvent, c'est dans le plan séquence d'ouverture de Orange is the New Black. Tu as juste des très gros plans, très 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 gros plans, des détenus dans la prison et ça bouge pas. C'est une photo après l'autre et c'est seulement quand le gros plan de l'héroïne apparaît. Elle cligne des yeux. C'est le seul mouvement qu'il y a dans tout le plan.
Alors ça, ils ont piqué ça à la jetée de Chris Marker.
Non,
c'est
à Félix.
Ben oui, tout à fait. Puis à ce moment-là,
mais c'est ça. Pourquoi
t'aurais
une voix
intérieure.
Pourquoi un livre? Parce que ça se lit différemment. Bon, évidemment, c'est pas un roman. Là, tu pars pas de la page 1 puis finir à la page 37, puis tu te couches. C'est des trucs qui se lisent 2-3 pages, puis tu mets ça de côté.
Ah oui!
Tu sais, c'est pas... des fois, il va y avoir des séquences qui vont avoir une petite suite. Là, comme
oui, parce qu'il y a une thématique qui lit quelques
À un moment donné, tu sais, il est cambriolé, il n'y a plus de fauteuil, il cherche un remplacement.
Ce qui est un choc, on s'imagine bien que...
C'est un choc, c'est un petit gars qui peut même pas porter une couleur de t-shirt différente. Il en fait l'essai à un moment donné, puis ça marche pas. Je ne dirais pas qu'il souffre de ci ou de ça, là, c'est pas le but, mais c'est certain que c'est un grand, grand émotif, et un grand, grand créatif et un grand procrastinateur, un grand sensible. On va y souhaiter peut-être dans un avenir de mettre ses rêves, les transformer en réalité, mais pour l'instant, dans ce volume-là, c'est vraiment pas le cas. Mais ça nous est tous arrivé, hein, nous créateurs, là.
Ouais.
D'attendre, d'avoir une idée, puis de ne pas rien faire avec, puis à un moment donné, ta voix quelque part, ou quelqu'un y a pensé. Ou...
Mais je pense que c'est pas juste le propre des créatifs, Normand, parce qu'en lisant ça, je me dis que c'est quand même un album qui témoigne de notre époque.
Mm-hmm.
Et je m'explique, c'est qu'on est de plus en plus refermés sur nous-mêmes. Autant nous jouissons d'outils de communication que dans la vie en général on a tendance à beaucoup s'isoler.
Ouais.
On sort d'une pandémie en plus qui a vraiment
magnifié
ça.
Voilà.
Mais tu sais, en quelque part, puis j'évoquais tantôt mon absence de personnel sur Facebook, mais tu sais, Facebook c'est une chambre d'écho, c'est un lieu où on peut rapidement se sentir isolé.
Oui.
Et donc, Félix n'échappe pas à cette espèce de... Moi, j'appelle ça une pandémie, là, l'espèce de pandémie de l'isolement.
Et tu remarqueras qu'il n'y a jamais de décor autour
non.
de lui. Il est dans du blanc complet tout le temps. Il y a juste son fauteuil et lui. Quelquefois, un accessoire, s'il se fait venir un cadeau. Bon, fait que c'est ça, c'est le vide, là.
On pourrait faire, de la psychologie à 10 cents. Je ne dirais pas 5 cents à cause de l'inflation, là, mais... La blancheur qui occupe la page, donc l'espèce de recherche de pureté, hein, on reconnaît Hergé, Tintin au Tibet. L'idée qu'il est assis dans un fauteuil, chez le psychiatre.
Et les jambes collées d'un côté, hein,
oui.
Il est crispé quelque part.
Oui, il y a un inconfort en plus.
Oui.
Il y a vraiment une aura d'étrangeté et si vous débutez votre lecture du côté francophone, vous avez un fan art de Jimmy Beaulieu
oui.
qui est vraiment formidable parce que une fille derrière lui, ben sa copine, là, lui dit « Ah, comme il est bon de cligner des yeux autant que je veux. Oui. » Et Félix a l'air complètement terrorisé, un peu comme dans Orange Mécanique, là,
oui, c'est ça.
La fameuse séquence où il...
Il a les yeux forcés
oui,
ouverts.
Oui, il a les là, yeux ouais. forcés ouverts.
Ben, il cligne jamais des yeux. Là.
Ouais.
Mais s'il était animé, il clignerait au moins deux fois en 15 secondes quand même. Parce qu'il n'est pas...
Il n'est pas psychopathe.
Il n'est pas paralysé. Là.
Non, mais ouais. tu sais aussi que les gens qui ne clignent pas des yeux sont dangereux. Là.
Oui, probablement.
On dit que c'est des...
Ça c'est... doit pas les rendre de bonne humeur.
Ouais.
Puis,
et du côté anglophone,
oui.
t'as un...
Tellement un beau dessin,
ah,
ça,
oui, de
Ghislain Duguay.
Ghislain Duguay, de dessinateur et co-scénariste de Noir Obscur et de MacGuffin et Alan Smithy. Un beau clin d'œil.
Andy Warhol.
Oui, évidemment.
Et, ouais. et moi qui regarde mon œuvre.
Ouais,
c'est il m'avait quand... envoyé ça comme ça, tiens. J'ai pensé à toi.
Il est généreux, hein?
Ah, c'est un gentil homme.
C'est un chic type. Tu sais que...
Oui, Jimmy aussi, d'ailleurs. Oui.
Tu sais que Ghislain, il est à la base du livre que j'ai fait, le livre hommage au Capitaine Québec de Pierre Fournier.
Ouais.
Parce que il avait fait un dessin hommage
mm-hmm.
qui m'avait posté. Et quand moi, j'ai vu ça passer en ligne, c'est... Alors, j'ai trouvé ça beau. Et là, il y a d'autres... Je l'ai partagé et d'autres illustrateurs ont embarqué. Et là, tout à coup, je me suis dit, OK, voilà, je vais faire un livre
ouais.
dont les profits seront versés mm-hmm. à la société Alzheimer de Laval. Et donc, mais c'est ça, il est comme ça, Ghislain. Puis, ben oui, Jimmy Beaulieu. Je veux dire, Jimmy, quel beau clin d'œil qu'il soit là. Tu sais, Jimmy qui, dans son œuvre... travaille beaucoup le mouvement, réfléchit au mouvement. Et là qu'il te fasse un fanart.
Il me disait, je ne le savais pas, mais là, depuis tout le temps qu'on se connaît, mais il m'a dit récemment que c'est moi qui lui avais donné le goût de faire de la bande dessinée.
Ah bon?
Parce que j'étais patron de téléservice les dernières années à Radio-Québec, Télé-Québec après.
Avec Claude Saucé, là?
Non, c'était avec Lise Lebel. Qui a pris la relève.
Qui a pris la relève,
ouais. Ouais, ben, ouais. Il y avait Gérard-Marie Boivin, puis ensuite Lise. Gérard-Marie et Lise étant tous les deux décédés, malheureusement. Ouais. Et je faisais de temps, même si j'étais le chef de pupitre, puis je dirigeais les autres, je faisais des chroniques de temps en temps. Et j'en ai fait un sur les frères Hernandez, Love and Rockets.
Ben voyons donc, puis Jimmy a vu ça.
Jimmy a vu ça, il est tombé en amour avec Amy Hernandez, ses dessins. Et il a dit, hey, moi, je peux faire ça. Moi, ça me tente de faire ça. Puis tu remarqueras, des fois, tu vois l'influence.
Ah, ben non, mais totalement.
Hein?
Totalement.
Oui, oui, oui. Totalement, puis
ouais.
Tout comme Hernandez, tu voyais l'influence de Ketchum, qui a fait Dennis de Menace,
ouais,
et puis
ouais.
Roy Crane,
ouais.
Des artistes comme ça. Alors, fait qu'il me dit ça il n'y a pas longtemps. Ben voyons, je ne savais pas ça. Ce
c'est bien
dit
ça, ouais.
C'est bien mignon.
Parce que j'ai assisté à un cours de Jimmy... au cégep de Rosemont. Et dans son cours, il présentait des lectures qui ont été marquantes pour lui.
Ouais.
Puis évidemment, c'est arrivé sur le sujet, là,
mm-hmm.
les frères Hernandez. Ouais, ouais. Ben c'est drôle. Mais d'ailleurs, c'est ça. C'est que. Donc, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que tu as travaillé longtemps dans les médias, derrière la caméra, mais tu as fait aussi notamment une série jeunesse.
Oui. Ben, en fait, c'était des... j'étais le présentateur des émissions pour enfants à Télé-Québec. Alors, c'était des capsules d'une minute en moyenne, deux fois de 30 secondes, une minute. Et j'avais une marionnette d'un mec qui s'appelait Denise Thibault, qui était une chauve-souris, qui ne parlait pas, mais qui faisait squeeze-squeeze. J'avais une petite poire dans dans la main. J'ai fait ça pendant 2 ans. On a fait au-dessus de 1000 capsules facilement. Ça a été vraiment une belle expérience. On n'a pas renouvelé mon contrat parce qu'on voulait m'envoyer mon nom comme animateur et co-scénariste aux Gémeaux. Et j'ai refusé. Alors,
ah bon?
Ouais. Fait qu'il était pas, la direction n'était pas contente. J'ai dit, écoutez, envoyez-les, je ne peux pas vous l'empêcher. Mais, tu sais, comme a dit un certain candidat à un moment donné, quand on lui a offert la vice-présidence des États-Unis, il dit, Si je suis nommé, je ne me présenterai pas. Si je suis élu, je ne servirai pas. Ben moi, c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, je ne veux pas faire de peine à personne, mais je ne suis pas un gars de jet set. On ne me verra jamais sur un tapis rouge. J'ai été invité à des galas parce que, bon, je dirigeais telle émission, ça, je n'ai jamais été. Et là, je n'étais pas pour enlever le vote à quelqu'un. Pas que j'aurais été choisi, même. C'est pas ça, c'est une question de principe. Moi, la compétition entre artistes, non, je n'ai jamais compris. Je comprends que c'est bon pour l'industrie et tout ça, mais je voulais rien savoir. Mais j'ai envoyé là quand même. C'est juste que je ne jouerai pas le jeu, c'est tout. Mais là, il n'était pas content. Fait que je pense que ça a beaucoup aidé à ce que mon émission, mon contrat ne revienne pas. Là. Mais c'est pas grave. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis récemment, c'est ça, j'ai fait le ménage de ma cabane à jardin où j'avais gardé à peu près 1500 dessins que les enfants m'avaient envoyés. Ils ont tous aujourd'hui 40 ans, 38 ans.
Ouais.
Et les écureuils étaient entrés, je ne savais pas. Puis ils ont fait des superbes nids colorés avec ça. Donc, j'ai pu en sauvegarder à peu près 400. Pas des écureuils, 400, ouais, okay. 400 dessins d'enfants, ouais.
Ben, donc, tu avais quelques écureuils esthètes de beaux dessins.
Ça devait être ça, OK, ouais. Mais, au moins. Si c'est une façon de dire, oui, mon dessin a été apprécié.
Mais j'imagine que, puis pour en avoir fait de la télévision, dans un contexte un peu similaire où je faisais aussi de la capsule de 3 minutes mm-hmm. Et quelques secondes, le fait de travailler dans un format comme ça, ça programme, en quelque part, le cerveau et l'esprit créatif.
Mm-hmm.
Je pense que ça configure d'une certaine manière l'esprit. Et moi, c'est ce que je retrouve dans Félix.
Ouais. Comment conclure en si peu de temps?
Oui.
Comment être concis? Tu sais, j'ai enseigné pendant 3 ans la bande dessinée au Collège de Montréal. J'ai arrêté juste pendant la pandémie, avant la pandémie. Et la difficulté de ces enfants-là, parce que là, j'avais des gens de secondaire 3, mais aussi 5. C'était mêlé un peu. Mm-hmm. Ils n'étaient pas capables de terminer une histoire. Je leur expliquais. C'était pas un concours de dessin. C'était un concours de structure séquentielle. Là. Et supposons que je leur donnais 2 pages. Je disais, regarde, il faut qu'il y ait une chute à la fin. Là. Pas parce que ça en prend une. Là, c'est parce que c'est votre exercice. C'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. Puis d'un party, vous ne parlerez pas trop longtemps. Là. Vous allez savoir faire une histoire courte. J'en connais du monde, ils partent sur une histoire puis ça finit plus. Il y avait toute la difficulté du monde. Puis il y avait un jeune homme qui tripait manga, puis il était très bon d'ailleurs, dessinateur. Et il a fait son histoire, puis il était rendu à page 17. J'ai dit, regarde, page 20, c'est fini. T'es pas parti pour de la manière que t'étais pas. Il va falloir que tu fasses comme Star Trek, The Next Generation, pendant 40 minutes, t'as tout ça, puis oh mon Dieu, il reste juste 7 minutes. Brrr, il culbutait la fin, ils ont fait ça souvent, c'était vraiment fatigant.
Ouais.
Mais
il y a quand même plusieurs professionnels qui font ça, normal, là, dans la bande dessinée. Là.
Bien sûr, bien sûr. T'sais. Mais c'est un bon outil.
Ouais.
C'est important d'apprendre à le maîtriser, cet outil-là.
Avoir un sens du rythme et avoir une notion du temps.
Oui, parce que sinon, tu débordes, là, je veux dire. Hergé avait ça, là, vraiment. Ben, tu sais, il était limité par le célèbre format 62 pages, là,
ouais.
Au point où il a dû en sacrifier de temps en temps des pages qu'il avait fait pour rien, là. Et c'est correct, c'est un format, mais c'est un peu fatigant. J'aime mieux aujourd'hui quand on... J'ai fait 148 pages, J'en ai fait 53. Parfait. Prends le temps de continuer l'histoire. Mais par contre, c'est pas mauvais d'avoir cette contrainte-là, parce que ça t'apprend justement un sens du rythme, un sens de la chute, et puis comment disperser aussi tes points forts, tes moments de suspense, tes moments de révélation, ça fait du bien. On en parlait récemment, toi et moi, comment qu'il y a eu une période, surtout chez Tintin, le journal, où, pour inciter le lecteur à revenir la semaine suivante, il forçait une chute.
Ouais.
Tu sais, c'était des albums qui étaient publiés 2 pages à la fois, en général, ou une page, dans le cas de Tintin et d'autres. Et il fallait toujours que ça finisse sur un choc pour que tu achètes le journal suivant. Mais quand tu relis tout ça ensemble,
ben oui, en album,
puis tu le lis en album, ça n'a aucun sens. Ouais. Tout le monde perd les pédales en bas de chaque page.
Ouais.
Puis l'exemple Bon, t'avais Ziggy Puss, un moment donné, il se promène en ville. On ne bouge plus! Puis là, whoop, tu tournes la page, puis c'est un photographe qui prend une photo du monde. OK, on ne bouge plus! Mais là, mais il a crié par en bas de l'autre page, par exemple. Et Vincent Larcher de Raymond Redding, le joueur de foot, ça, là, en bas de la page, il est avec son père, puis son père s'en va, puis « Papa, qu'est-ce que tu as là? » Puis il pointe du doigt, puis c'est écrit, le lettrage est immense. L'autre page, le bonhomme se retourne dans sa poche. « Ah, c'est le journal dans ma poche, tu l'as lu? » Tu sais, ça devient complètement ridicule. Puis, c'est ça, il pensait seulement à sérialiser le tout, puis inciter
oui,
le
c'était
lecteur.
Un mode de production qui était très différent.
Oui, mais tu sais, c'est un peu
mais
comme,
ça vieillit mal.
Ça vieillit super mal, mais surtout quand tu les mets ensemble. Ouais. Parce que ça empruntait aux vieux serials là, quand on allait. En tout cas, moi, quand j'allais au cinéma, là, on avait un chapitre de Zorro, puis c'était à suivre.
Ça, c'est quand il y avait un pianiste.
Oui, c'est ça. moi, j'étais assez vieux. Je me souviens quand la radio était en noir et blanc. T'sais. Mais non, c'était un peu ça. Ben, le gars, il descend en parachute, le héros, puis le train s'en vient, puis là, tu le vois tomber, puis là, tu vois le train passer à suivre. Mais là, la semaine suivante, il te faisait un petit retour en arrière, puis là, tu le voyais tomber, mais là, tu le voyais tomber à côté de la traque, puis là, le train passait. Fait que c'était tout ça pour ça, tu sais.
Mais
c'était
en
un
même
peu
temps,
ça qu'il avait emprunté à l'époque.
Mais
là.
C'est fou, parce que quand on relit aujourd'hui tout un pan de la production américaine qui était diffusée dans les journaux, comme Taryn the Pirates, mm-hmm. Dick Tracy.
Oui, les comic strips.
Ouais, les comic strips. Dans Dick Tracy, il n'y a pas... Il y a un art de l'accroche, mais c'est jamais pour être déçu.
Non.
À la prochaine page ou au prochain strip.
Ben, t'avais pas le temps d'oublier parce que c'était le lendemain.
Ouais.
Tu sais, et des fois, il y en a. Des fois, il y en a. Des fois, c'est répétitif. Tu vas terminer sur la case 4 le vendredi, puis le lundi, tu vas. La case 1 va être un peu la même.
Oui, le récapitulatif. Ouais.
Ouais. Pardon, voilà. Ouais. Mais non, mais il gardait un suspense. C'est sûr qu'il y avait les comic strips de gag, là, ça se terminait au bout de 4 cases. Merci beaucoup.
Ouais, mais les serials, justement.
Mais les serials, ouais. Dick Tracy, même Mary Worth, ouais. Des trucs comme ça. Ouais, il y avait toujours une suite, mais c'était. C'était. Bon, leur grand succès a été avant la télévision, évidemment, ouais. Là, parce que même la radio ne pouvait pas vraiment remplacer ça.
Ben, avec l'arrivée de la radio, ça a quand même eu un impact.
Ça a eu un impact,
sur la
mais pas autant, pas autant, non, parce que ce n'était pas un médium visuel. Non. Et le réflexe, d'ailleurs, moi, ça m'a toujours... Tu regardes des photos, là, tout le monde regardait la radio, regardait l'appareil.
Et les gens se mettaient propres, en plus.
Ils se mettaient propres, ils étaient autour, puis ils regardaient le meuble.
Mais c'était un beau... c'était beau, quand même, là.
Oui, mais on n'avait pas encore développé ce réflexe-là de, bon, c'est un compagnon dans la maison, tu t'en vas ailleurs, il joue encore, mais on est loin de ça, là.
Ouais.
Mais non, c'était quelque chose de spécial. Puis, mais tout ça pour dire que le comic strip était extraordinairement populaire à tous les âges. Là. Les enfants avaient leur truc, les adultes aussi. Mais c'est dommage parce que c'est en train de mourir. En tout cas, c'est plus ce que c'était, c'est encore là. Là.
Oui, mais même temps, il y a quand même, tu sais, le dernier grand strip que j'ai lu, mais qui est vraiment contemporain à tout ça, c'est Cul-de-sac de mm-hmm. Richard Thompson. Puis c'est drôle parce que là, on est dans l'anti-climax.
C'est ça. Toujours.
Alors, tout à coup, c'est plus la dernière case qui compte. C'est plus. C'est l'ensemble du strip. C'est comment c'est raconté. C'est ce que l'auteur décidait de ne pas montrer ou d'évoquer.
Oui.
C'est sûr que ça peut sembler déstabilisant. En fait, comme Félix qui fixe, mais une fois qu'on intègre ça, qu'on comprend...
C'est ça, la manière de lire, l'impact est là.
Il y a un monde qui s'ouvre à nous.
Mais moi, mon prochain, ce ne sera pas Félix. On m'a demandé, y a-t-il un volume 2? Vraiment pas pour tout de suite. Là, je travaille justement sur un comic strip. Un recueil de comic strip qui se passait en 1948 et qui est une Dick Tracy féminine. Féminine.
Okay.
Et ça se passe dans... New York, probablement, c'est jamais nommé, mais bon, c'est une grande ville où la criminalité est omniprésente. Et je me suis un petit peu inspiré de Chester Gould, ce qu'il faisait avec Dick Tracy, donc les méchants qui ont le nom de leur apparence et vice-versa. Fait que tumeur, une immense tumeur le long de la joue qui va se... Il y a même un assistant qui transporte, tu connaissais?
Ah ouais! Parce que les vilains dans Dick Tracy sont extraordinaires.
Ouais, ouais.
Souvent, les gens vont parler de Batman. Ils disent « Ah, les vilains dans Batman. »
C'était inspiré un peu, c'était l'époque. On faisait ça un petit peu. Cary Drake le faisait, mais en moins spectaculaire. Ouais. Parce que Chester Gould avait un style de dessin vraiment particulier, très stylisé.
Des trash, des
très
Tracy,
stylisé.
Ouais, ouais, ouais.
Et lui pouvait s'en ressortir en faisant un personnage comme Prune Face ou Flat Top.
Oui, Flat Top,
Que d'autres n'auraient pas pu. Ça aurait l'air. C'était grotesque, mais puisque c'était tellement cartoonesque en même temps, c'était un mélange qui dérangeait plus qu'autre chose, mais qui fascinait. Mais moi, c'était un petit peu ça. Et mes vilains sont vraiment comme ça. Et mon héroïne, qui s'appelle, je peux le dire, là, parce que j'ai eu le copyright, elle s'appelle Chris de Callis. C'est son nom.
Mon Dieu, on dirait un personnage d'Henriette Valium.
Ouais, Chris, mais elle s'appelle Chris de Callis. Ah, parce Chris que ma BD est en anglais. J'ai pas pu la faire en français pour l'instant, surtout que l'associé de Chris, c'est une Canadienne française, comme on disait en 1948, qui s'appelle Biche. Elle se prénomme Biche, mais elle parle un excellent anglais. Elle sort juste un sac de temps en temps. Sauf que mon héroïne principale, Chris, elle mesure environ 5 pieds 5. Puis Biche, elle a 6 pieds 5. Okay. Qui l'appelle Long Bitch, les Américains, évidemment.
Hey, c'est drôle, parce que là, tu me fais penser, l'unique admirateur du Capitaine Québec dans le numéro 1 en 1973, qui est un anglophone, s'appelait Chris Lasty. Donc, Chris Lasty.
Ouais.
Donc, il y a peut-être une espèce de crossover.
C'est peut-être
cosmique.
Peut-être un petit cousin de Chris.
Mais là, ça, t'as rien publié pour l'instant.
Non, mais on revient dans les contraintes parce que je respecte le comic strip de 4 cases.
OK.
Avec une petite bébé chute, des fois. Et la page du dimanche où je peux être un petit peu plus lousse, là, au niveau des.
Donc, une double.
Ben, en fait, des cases plus grandes, tout ça. Parce que d'avoir une héroïne de 5 pieds 5 et l'autre qui a dépasse d'un pied, c'est pas évident à mettre dans des petites cases, là. Faut toujours que l'autre soit assise ou un petit peu à genoux ou elle se penche, mais c'est pas évident. J'ai pas choisi. Ben, comme Motte et Jeff, là.
Fisher
avait le même problème. Excuse-moi. Mais ces 4 cases-là, c'est fatigant. Puis moi. Je m'excuse, j'utilise toujours le système impérial, mais toutes mes cases sont faites sur du 8,5-11 et sont réduites à 2 par 3 pouces.
Okay.
Fait que ça fait beaucoup de. C'est un style, c'est en noir et blanc, alors ça me permet de faire vraiment des beaux contrastes et le fait de les rapetisser à ce point-là, ça donne une belle richesse dans le ton puis le dessin aussi. Mais ça, c'est très long à faire.
Mais là, tu ne vas pas mettre 50 ans pour ton prochain album?
Non.
C'est pas prévu.
Parce que l'endroit où je voudrais faire le lancement, il n'y a pas de rampe pour les fauteuils roulants. Fait que ça serait mal voir.
Tu as déjà pensé à ton lancement?
Mal prévoir, là. Mais non, je pense que je vais être en mesure de le publier en 26.
Est-ce que tu comptes pré-publier en ligne ou tu sors directement dans l'album?
Ça serait, j'ai pas pensé à ça avant, là, tu viens de me le dire, ça serait intéressant de le publier en ligne parce que c'est un comic strip.
Ben voilà.
Ça serait comme un strip par jour.
C'est du feuilleton.
C'est du feuilleton, peut-être, ouais. Peut-être. Peut-être pas au complet parce que. Mais.
Ben peut-être assez pour aguicher.
Ouais, ouais, c'est ça. Les gens. Oui, oui. Parce que. Puis c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de personnages et ça. Il y en a qui ont pris. Il y en a qui prennent vie tout seul. Hein. Je veux dire. Et là, c'est le cas. Là. J'en ai deux, là, deux jeunes femmes. Ils devaient seulement apparaître dans une case. C'est tout. Et finalement, ils ont des pages pleines à elles. Ils ont pris
la pleine possession.
Ils ont pris la pleine possession de leurs possibilités d'histoire, oui. Ouais, ça, c'était un peu fascinant.
Alors, tu t'en vas complètement ailleurs que dans Félix qui fixe.
Absolument.
Là.
Oui, oui. Puis ça me permet de dessiner, tu sais, dans Félix. Bon. Moi, je dis à tout le monde que je recopiais méticuleusement chaque case, là, la main, sans tricher. Bon,
oui. J'imagine que peu de gens t'ont cru.
Ben oui, ça me surprend. J'ai toujours l'air convaincant. Mais,
ouais.
Mais bon, mais là, ça me permet vraiment de m'éclater plus sur le dessin, puis de bouger.
Et donc, il aura fallu vraiment la retraite pour que tu puisses...
J'en ai fait des BD. Tu sais, j'ai collaboré au Montréal Campus quand je suis retourné filer mon bac en 80. J'ai fait des illustrations pour Québec Science, j'ai fait ici, à gauche, à droite.
Tu avais travaillé aussi sur un projet, je me souviens, tu m'avais présenté ça il y a dizaines d'années au moins avec Serge Boisvert.
Oui, on l'a, Cadavrel.
Cadavrel, voilà.
Et on a, j'en ai profité pendant que j'avais été à Angoulême pour apporter une dizaine d'enveloppes pour les éditeurs français et belges. Ça coûte moins cher, même, t'es sur place. Et poster ça. Et ça a été un record parfait, mon vieux. Parfait. 10 refus sur 10. J'étais dit yes! Parfait.
Est-ce que tu avais essayé au Québec?
Non.
Non?
J'ai pas essayé au Québec.
Serge Boisvert, là, pour si le nom dit quelque chose, en fait, il a été longtemps un collaborateur au magazine Safari.
Ben,
c'était un des cofondateurs. Et une des griffes graphiques du magazine. Là.
Oui, absolument. Puis, on avait plusieurs projets ensemble. Un autre qui était très prometteur. Mais, puis, c'était pas fini pour Cadavrel. C'était mon erreur, d'ailleurs, parce que j'ai présenté ça comme un triptyque. Puis, quelqu'un m'a dit, ben là, si le premier album ne marche pas, tu sais, ils seront pas intéressés. C'est ça. Fait que j'étais un peu naïf dans ce sens-là. Là. On l'est à tout âge, hein?
Oui.
Mais j'ai raté un peu mon coup, je pense, en partie à cause de ça. Mais je ne l'ai pas présenté au Québec parce que c'est pas un format, c'était le format européen, là, 60 pages, couleur, carton, ben, bref, on fait pas ça ici beaucoup. Là. Et je sais pas, c'est pas... Le seul problème, c'est que Serge, pour des raisons de santé, n'est plus en mesure de dessiner. Alors, ce projet-là, l'autre projet sur lequel on était, puis un troisième, je le sauve avec, entre autres, Ghislain Duguay qui me fait quelques pas, fait que ça va être comme un mélange de plusieurs artistes et on va pouvoir sortir l'album de cette façon-là. Mais non, c'est beaucoup d'années où je peux rien faire à moins que je remplace Serge complètement parce qu'il y a plein de pages qui étaient terminées, qui sont superbes, plein de pages qui sont esquissées, qui sont superbes. Mais c'est pas le genre d'histoire où tu peux changer d'artiste en plein milieu là, puis revenir. Là. C'est pas ce genre de structure narrative là, du tout. Alors, mais moi, c'est surtout la santé de mon ami. Là, je m'en fous là, des projets. Là. C'est ce qui est prioritaire, c'est sa santé, mais j'espère qu'il va aller mieux.
Alors, en fait, c'est pas les projets qui manquent. En fait, c'est une deuxième vie professionnelle que t'embrasses, là.
Ouais, puis j'ai même d'autres affaires, là. J'ai une web-série qui est en écriture. Ça me permet juste de... Moi, je travaillais toujours sur ces choses-là, même quand je travaillais à temps plein, là. Mais évidemment... Tu sais, quand tu viens de faire un 8-10 heures, là, puis surtout que je travaillais de nuit, les 15 dernières années, alors tu arrives à la maison, il est 11 heures du matin, tu prends une bouchée, après ça, la tendance à être couché est un peu forte. Mais je le faisais pas, je faisais mes trucs, mais tu sais, t'es pas dedans à 100%, évidemment.
Ah, c'est sûr.
C'était des distractions extérieures.
Et c'est la réalité, il faut le dire, d'une grande majorité de BDistes.
Ben oui, parce qu'ils gagnent pas leur vie. Bien sûr, ils gagnent pas leur vie avec ça, malheureusement. En tout cas, même en Europe, hein, c'est une poignée là, qui peuvent se permettre de bien vivre. Et une autre petite section qui vivote, et le reste, ben c'est ça. Ils ont d'autres choses à faire.
Évidemment, c'est sûr que les projets alimentaires nous éloigne un peu de la création, mais en même temps, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est, somme toute, ça peut devenir nourrissant aussi, parce qu'on apprend à travailler dans un autre contexte, parce que tout à coup, on se plie à d'autres modèles, et donc quand on revient vers la création, vers notre travail, tout à coup, ben on a fait l'expérience de quelque chose d'autre.
Ben, l'artiste, en général, que ce soit dans n'importe quelle discipline, c'est un passionné. Parce que ils font pas ça pour l'argent. Hein. Ils font pas ça pour la gloire. C'est rare que tu peux gagner confortablement ta vie en étant sculpteur, en étant comédien, en étant auteur. Tu sais, l'auteur d'un livre, c'est pas le pourcentage qui lui revient, là. C'est pas la grande fortune, là.
Non, je te dirais que dans cette catégorie-là, à part des humoristes, je vois pas vraiment qui...
Non, non, tu sais, puis n'est pas Stephen King qui peut, là. Alors, dans tout ça, il y a tout... L'artiste a toujours des contraintes. Et ça peut être des contraintes de vivre, tout simplement, de payer son hypothèque ou son loyer ou de s'acheter de l'épicerie ou un sac de chips de temps en temps. Mais il y a toujours ces contraintes-là qui forcent à une certaine créativité accrue.
Ouais, voilà.
Tu trouves toujours, ou presque toujours, une manière de t'en sortir quelque part. Et ça fait partie pratiquement du processus de création, qui est long des fois. Alors tu vas passer à travers plusieurs phases où ça va mieux aller, où ça va moins bien aller, où ça va être plus difficile, où il faut que tu abandonnes un peu pendant un mois, ou bon. Ça force, ça forme le caractère, ça. Puis ça forme une certaine débrouillardise. Tu sais, et bon, Félix, c'est pas le genre, parce qu'il va jamais plus loin que... Ça, c'est l'idée dans sa tête. Mais pour ceux qui s'y mettent et partent un projet et jusqu'à la fin, les embûches souvent inattendues, non, ça prend, ça donne un caractère un peu plus trempé, là.
Moi, je pense que la contrainte, c'est le meilleur antidote pour combattre le syndrome de la page blanche.
Absolument, parce que, ben, premièrement, ça te force à produire.
Ouais.
Et deuxièmement, ça... Ben, deuxièmement, ça te force à produire. C'est ça que...
Et t'oubliais aussi que ça force à produire, troisièmement.
Oui, j'allais mais merci de me dire.
Non, c'est correct. Mais je suis là pour ça.
Tu fais un bel job.
Oui. Merci, Normand. C'est très apprécié. Mais, en tout cas, pour en revenir à Félix qui fixe, on sent... Et il est d'ailleurs communicatif, ce plaisir-là. Félix qui fixe... Pour moi, c'est un album piège, parce que, alors qu'il a rien au point de départ pour nous séduire, en fait, on se rentre le doigt dans l'engrenage et on est complètement aspiré.
Mm-hmm.
Alors, je suis très curieux, moi, de lire ton prochain projet, parce que là, tu vas dans une autre tonalité, tu vas dans l'action, tu vas dans la construction, tu vas davantage dans le rebondissement qui sera pas ce coup-ci intérieur.
Dans l'horreur.
Ouais, l'horreur, le genre. Hein?
Mm-hmm. C'est très violent, c'est très noir, mais c'est très drôle aussi. Et ça, c'est le genre d'humour noir, moi, j'adore. Là. Puis...
Alors, d'ailleurs, humour noir, est-ce que tu as lu Noir Obscur?
Il m'avait envoyé des planches.
OK.
Puis d'avance, là.
C'est
puis j'adore
formidable.
Ça. Là.
Noir Obscur chez Station T.
Ah oui.
De Ghislain Duguay.
À lire absolument. Hey, oui.
Et de son cousin, dont j'oublie le prénom, zut.
Je pense que c'est Sébastien.
Oui, Sébastien, c'est ça. Ouais. Mais ils sont pas frères, c'est pas les frères Duguay.
Non, c'est ça.
C'est les cousins Duguay.
Oui, oui. Non, c'est vraiment intéressant. Je l'ai pas, j'ai pas le livre encore, là. Mais j'en ai lu une partie, évidemment, avec les planches qu'il m'avait montrées d'avance.
C'est formidable.
Ah, j'adore ça.
Et c'est bien de voir qu'au Québec, tu sais, je remarque avec mes activités de chroniqueur, de médiateur, mais aussi d'observateur, ça fait quand même pas aussi longtemps que toi, là. Moi, The Beaver, j'existais pas encore quand c'était publié. Je m'en venais, j'étais en route, mais j'étais pas là. Mais je remarque vraiment que depuis...
C'était, je me souviens, Le Beaver.
Le Beaver, oui, oui.
Ouais.
Le Beaver.
Beaver.
Et non pas The Beaver.
Non, c'était, ouais, voilà, ouais. Le clin d'œil, ouais, on est au Québec.
Ouais. Mais donc, je remarque depuis le dernier quart de siècle, depuis les 25 dernières années, il y a vraiment... Je trouve que la production s'émancipe. À tout le moins au niveau des tonalités, des sensibilités, des univers visités, tout à coup, c'est plus que l'humour n'est plus prédominant, le genre est abordé de manière complètement différente.
Mm-hmm.
T'as une Caroline Brault, t'as un Grégoire Bouchard qui abordent tous les deux la science-fiction, mais de manière complètement personnelle, assumée et différente.
Oui. C'est très bien. Mais on a été longtemps quand bon, j'étais de la génération de l'hydrocéphale puis Made in Québec et tout ça.
Le printemps et... de la bande dessinée québécoise.
Ouais, mais il y avait comme un thème qui était toujours omniprésent. C'était un peu... C'était notre underground à nous. Ouais. Autant que les Robert Crumb et compagnie aux États-Unis faisaient énormément de drogue et de sexe. Là.
Ouais.
Fait que quelque part, c'était contraignant, mais c'était nécessaire. Puis d'ailleurs, les Français l'ont fait plus tard. Et Fluide Gaciale, tout ça, c'était...
Ouais.
Bon, le sexe. Bon, il fallait que ça sorte, hein, quelque part. C'était... Mais ici, nous, on avait un petit côté underground, là, c'est ça. Et il n'y avait pas de... C'était un peu comme les téléromans à l'époque, là, à la télévision. C'était soit le curé, puis la campagne, ou la cuisine, puis le café. Là. Ça ne sortait pas hors de ces sentiers-là. Là. Entre chiens et loups, l'histoire des pays d'en haut. Bon. C'est, aujourd'hui, c'est le style, malgré qu'on... On fait pas d'horreur, on fait pas de science-fiction vraiment.
Ah non, ça ici au Québec.
C'est
là,
comme si c'était impensable. Là. Il y en a eu quelques-uns. Là.
Oui, mais c'est surtout qu'il y a eu des flops commerciaux, tu sais.
Oui. Mais peut-être qu'il n'est pas très bon. Oui,
ça a rendu. Mais ça a rendu les gens frileux.
Ça a rendu les producteurs frileux.
Les producteurs, ouais.
Mais en tout cas, on verra là parce que. Mais tu sais, on a plus de trucs policiers. Bon, au moins, on se déniaise un peu, parce que longtemps, on a été comme les Italiens avec les télénovelas, là, qui étaient toujours la même patate. Puis là.
Ouais.
C'est bien, au niveau du cinéma aussi. Moi, je trouve ça de plus en plus riche, et c'est formidable. Il y a des jeunes réalisateurs, réalisatrices qui sont vraiment intéressants.
Et qui sont décomplexés.
Oui, puis ils n'ont pas besoin... de faire quelque chose qui est typique québécois, dans le sens que, tu sais, là, ça... Ouais, si, tabarnak, c'est pas nécessaire. Là. On l'a fait, ça. On peut encore le faire, j'ai rien contre.
Oh, puis il y en a qui le font encore, d'ailleurs.
Oui, puis ils le font très bien. Ouais, c'est correct. C'est pas un genre en soi, de toute façon. Mais je veux dire, ils peuvent faire des trucs qui vont à un autre niveau de langage ou un autre... C'est intéressant. C'est beaucoup plus riche. Tant mieux. La bande dessinée, on est une belle, belle période, je trouve. C'est vraiment formidable. C'est certain que, comme on en parlait, c'est pas tous les créateurs qui peuvent gagner leur vie avec ça. T'sais. C'est dommage. Ça limite la production.
Quoique, d'une certaine manière, ouais. Évidemment, ça limite la production, mais jamais il s'est autant produit de bande dessinée au Québec
absolument.
Que présentement.
Absolument. Puis le... Sans être complètement réseauté, là, tous ceux qui en font, ils se connaissent, et ouais. Les fans, ils ont, évidemment, avec les médias sociaux et les festivals, ils ont plus de chances de connecter ensemble, puis de jaser, puis de s'encourager mutuellement, puis d'acheter les produits de l'autre, puis bon, ce qui n'existait pas, évidemment, il y a 50 ans. Là.
Non, puis c'est ce qui permet l'existence de Félix Kifix. Mm-hmm. Cet album-là, tu aurais voulu le sortir il y a 25 ans, il t'aurait coûté beaucoup plus cher, ça
aurait
été beaucoup plus complexe techniquement, puis après ça, il aurait fallu que tu cours pour essayer de te trouver un lectorat.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est quand même la preuve que le jeune auteur que t'es aujourd'hui, qui débarque avec cet album-là...
Aujourd'hui, j'ai pas besoin de courir pour me trouver un lectorat, j'ai juste à marcher.
Ouais.
Surtout à mon âge.
Tant que t'as pas besoin de rouler dans un fauteuil roulant ou avec ta marchette. Donc,
Mon éditeur se spécialise dans des gros livres d'art. Il en a fait un récemment sur le peintre Guy Paquette, qui a une belle renommée en Europe. Mais c'est le genre de brique qui coûte 185$. Fait qu'il n'y a pas... Puis que tu vas trouver dans les galeries, dans les musées. Alors, il n'y a pas vraiment de réseau pour la BD. Alors, c'est moi qui fais mon commis voyageur.
Ouais.
Puis ça va. À Montréal, il y a des BD qui en a. Il y a Planète BD, il y a la librairie du Square, il y a Capitaine Québec sur Sainte-Catherine-Ouest. À Laval, il y a la maison de Jean Marquis,
la
boîte à BD. À Sherbrooke, il y a les deux sœurs. Il y a Avalanche. Je dis toujours Avalanche. Appalaches, une belle librairie sur Wellington. Puis bientôt, je m'en vais à Québec puis Trois-Rivières. Puis on va voir. Mais c'est correct. Pourvu qu'il soit une couple d'endroits comme ça, spécialisés, où les gens qui vont là veulent de la bande dessinée. Hein? Ils sont pas là pour voir qu'est-ce que je vais m'acheter. Roman, puzzle. Bon. Fait que ça, c'est bien. C'est déjà ça. Puis, moi, je suis pas pressé. Où les gens peuvent m'écrire aussi ma page Facebook. Puis, mais je suis pas pressé. J'ai ce livre-là pour quelques années dans les mains. Il n'y a pas de problème. Et il est intemporel un peu. Là.
Donc, celles et ceux qui veulent s'en enquérir devront donc se présenter dans des librairies indépendantes, celles que tu as nommées.
Oui, c'est ça.
Ou venir sonner chez vous. Est-ce que je donne l'adresse?
Non. Non, okay. non parce okay. que c'est secret.
Okay.
C'est censé, on dirait, une fruiterie en avant, mais non, c'est un front. Mais mon courriel, c'est labelnormand6, labelnormand comme label au bois normand, ça fait 2 LE, labelnormand6@gmail.com. Vous pouvez m'écrire et puis on va s'arranger et c'est livré par Pigeon Voyageur.
Parce que t'as beau être un jeune auteur, t'as pas de site transactionnel. Et c'est bien correct. En même temps, je relisais dernièrement Le Pont du Havre. De Luc Giard aux éditions Mécanique Générale, un album formidable. Et c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est le récit d'un homme qui fait le tour des librairies parce qu'il cherche des trésors.
Ouais.
C'est bien ça, de revenir aussi à ça. Comme quoi, ce n'est pas que l'album qui est un événement en soi, mais aussi de le trouver.
Oui, oui, c'est ça aussi.
Puis aussi de permettre à des libraires de le défendre.
Absolument. C'est ça. Puis, c'est toujours mieux d'avoir une relation plus personnelle avec ces libraires-là, évidemment. Là, je vais voir si je suis accepté à Exposine. Mais je vais certainement, en tout cas, être au Festival de la bande dessinée de Montréal l'été prochain, ça, c'est certain. Alors,
Qu'est-ce qu'on te souhaite? Comme jeune auteur là, qui a la vie devant toi, on te souhaite bon vent pour ton prochain projet?
Oui, ça s'autofinance un peu dans ce sens-là. Là. Mais on me souhaite d'avoir la santé de continuer. C'est ça le plus important.
Hein. Tes lectrices, tes lecteurs là, qui te découvrent, là, ils se disent « c'est un jeune auteur, bien, j'en ai encore pour... »
Jeune auteur de presque 70 ans, oui. La jeunesse est relative. Hein, parce que,
tout à fait.
Oui, parce que bon, là j'ai 69, mais je rencontre des étrangers, puis... Ils ne me donnent pas 69. Ils me disent toujours, je donnais 68.
Ouais.
Ah oui, c'est
ça. Ben, c'est apprécié.
Ça fait du bien.
Ça se prend bien. Mais en tout cas, moi, en lisant Félix Kifix, tu vois, je sens toute l'effervescence. Fait que tu vois, moi, je t'aurais donné 67.
Bon, c'est gentil.
Hein?
Ben oui.
Prends-le, ça t'appartient normalement.
C'est la date de l'expo. l'année de mon premier spectacle extérieur. Maurice Chevalier.
Ah mon Dieu!
À l'Expo 67.
Ouais, là, Maurice Chevalier,
le concert extérieur.
Les plus jeunes qui nous écoutent, googlez ça, Maurice Chevalier, parce que vous n'avez aucune idée. Normand Labelle, merci beaucoup d'être passé au micro.
Merci beaucoup, Jean-Dominique. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir et un privilège.
Pour suivre Normand Labelle, rendez-vous au facebook.com/ Normand.label2. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca.